Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Leridon, Silène, François Bertie Bourdon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Clément Daté. Deuxième temps de notre série consacrée à l'Amérique du Sud, un sous-continent sous haute tension. Après avoir évoqué hier l'échec du néolibéralisme en Argentine et au Chili, avant de nous intéresser demain au retour du militarisme du côté du Brésil, et puis jeudi aux ressources maudites que sont la coca, le pétrole et l'or, tournons-nous aujourd'hui vers la Bolivie, en pleine crise politique après la réélection contestée d'Evo Morales. Evo Morales, fin d'un rêve pour les indigènes boliviens? C'est notre question ce matin dans Culture Monde.
C'est une fraude complète. Et c'est clair qu'on ne veut pas d'Evo Morales.
Les gens sont fatigués. Il y a un gouvernement qui veut rester au pouvoir, qui ne respecte pas du tout la démocratie.
Ça ne peut pas se passer comme ça. La Bolivie doit être libre et respecter le vote. Tout le monde doit faire avec. Si l'autre a gagné, il a gagné. S'il a perdu, il a perdu.
On veut un président comme Evo. Evo a gagné proprement, il n'a pas les mains sales.
Le corps électoral n'est pas un arbitre impartial. Tout est en faveur d'Evo Morales.
On demande plus que tout l'intervention des organisations internationales parce que le gouvernement est dans la fraude complète avec ces élections.
Il faut qu'il y ait du changement parce qu'on ne peut pas rester président toute sa vie.
Depuis que le président bolivien, premier dirigeant autochtone du continent et porteur de grands espoirs dans les années 2000, a annoncé sa réélection officiellement par 47% des voix, les manifestations de ses opposants et de ses partisans se succèdent à La Paz. On va tenter de comprendre cette crise politique qui se joue en Bolivie et d'en identifier les racines profondes. Dans ces cortèges massifs et multiformes se mêlent dans les deux camps des populations autochtones, preuve que des divisions traversent ces communautés amérindiennes. Alors d'où viennent ces divisions qui traversent la société bolivienne et en particulier la communauté indigène? Comment expliquer l'échec d'Evo Morales à créer une unité indigène autour de lui? Dans quelle mesure cet échec est peut-être aussi à l'origine de la crise politique actuelle? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités. D'abord, Claude Le Guil, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, chercheur associé au CREDA, le Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques, mais aussi associé à la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Vous aviez co-écrit avec Laurent Lacroix le processus de changement en Bolivie, on en parlera aujourd'hui. À nos côtés, en duplex de Nancy, Laetitia Perrier-Brulet, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Vous aviez co-dirigé, vous, Ressources mondialisées et cette géographie politique aux éditions de la Sorbonne. On va commencer avec vous, Claude Le Guil. Depuis l'annonce officielle de la victoire de Morales, on voit une crise politique qui n'en finit plus. Au départ, les contestataires exigeaient qu'il y ait un second tour. On est désormais dans une revendication beaucoup plus radicale puisqu'on demande à ce que Morales quitte carrément son poste de président. Ces derniers jours, on a eu des manifestants qui ont lancé un ultimatum qui devait se finir hier soir, expliquant que s'ils ne renonçaient pas à ce poste précisément, des mesures plus radicales seraient prises. Alors on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on voit bien que les choses se radicalisent. D'abord, est-ce que vous avez été surpris par ce qui se passe en Bolivie? Est-ce que vous attendiez? Est-ce que ce scrutin provoque une telle crise post-électorale? Et qu'est-ce que ça vous semble révéler de l'état actuel du pays? On va commencer avec vous, Claude Le Guil.
Je suis surpris, oui et non, parce que mon dernier voyage en Bolivie au mois de novembre, je m'étais rendu dans une communauté où j'avais vécu pendant de longues années, entre 2009 et 2011, où j'avais suivi tout le processus de changement justement en Bolivie, depuis le bas, depuis les communautés, et je m'étais rendu compte au novembre dernier qu'il y avait une fracture, que j'avais déjà vu certains débuts il y a quelques années, mais qui s'était vraiment accentué. Le mouvement de base, le soutien d'Evo Morales semblait comme voilà fragmenté. Et je pense que personne ne pouvait vraiment donner un résultat à l'élection. Donc c'était un petit peu l'inconnu. Je pense que même le propre gouvernement, d'après ce que j'ai pu comprendre avec un contact que j'ai en Bolivie, mon collègue Franck Poupeau qui est là-bas, qui me disait qu'apparemment le gouvernement, lui, pensait gagner aussi dès le premier tour. Donc voilà, il y avait ce saut dans l'inconnu, on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer. Et c'est cet inconnu qui qui frappe la Bolivie actuellement.
Laetitia Perrier-Brulet, même question, parce que on peut évidemment aimer ou critiquer la politique menée par Morales, peu importe, on pensait que ce régime bolivien, il était suffisamment stable et sain pour organiser un scrutin présidentiel sans que ça provoque une crise post-électorale majeure. On s'est trompé, Laetitia Perrier-Brulet, sur l'état de santé global de la démocratie bolivienne, elle est peut-être plus mal en point qu'on le pensait.
C'est-à-dire que elle était mal en point et personne n'en faisait vraiment cas. Elle est mal en point depuis 2016, depuis que le référendum populaire qui avait été organisé sur la question de savoir si oui ou non Evo Morales pouvait se représenter, ce référendum populaire avait été perdu par Evo Morales. C'est-à-dire que 52% des Boliviens, une courte majorité, mais une majorité quand même, avaient dit « on ne veut plus d'Evo Morales ». À partir du moment où ce référendum est perdu pour Evo Morales et qu'au travers du tribunal constitutionnel et en invoquant la question des droits de l'homme et du droit de chacun à se faire élire en 2017, il maintient sa candidature, il y a un dysfonctionnement qui apparaît. C'est un signe fort que quelque chose était brisé dans le fonctionnement de la démocratie bolivienne. Démocratie bolivienne qui est assez jeune, hein, le retour de la démocratie date de 82. Donc on est sur des fonctionnements qui ne sont pas toujours complètement ancrés dans les mémoires de la société bolivienne. D'ailleurs, on voit maintenant, on commence à agiter le chiffon rouge de l'armée, on dit on va faire revenir l'armée, mais ça évoque des choses très lourdes en Bolivie, hein. Ça rappelle la période de dictature militaire.
Il y a, Claude Le Guil, effectivement, ce que rappelle Laetitia Perrier-Brulet, c'est-à-dire une forme de trahison, en tout cas dans l'intention, parce qu'effectivement Morales avait demandé aux Boliviens s'ils acceptaient l'idée qu'ils se représentent pour un quatrième mandat. Ils avaient dit non, majoritairement. Il a finalement pu se représenter à la faveur, finalement, d'une procédure judiciaire, et donc tout ça s'est fait quand même. Et c'est vrai que d'un point de vue général, on sent qu'il y a une forme de trahison démocratique. Et d'ailleurs, paradoxalement, là aussi, parce qu'il y en a plein des paradoxes en Bolivie, mais il a amélioré, au fond, le fonctionnement démocratique du pays. Mais on y reviendra. Sur la question de l'armée que vient d'évoquer Laetitia Perrier-Brulet, c'est vrai que c'est un point très important. Il faut toujours regarder, quand il y a des crises post-électorales, ce qui se passe au niveau de l'armée. Il se trouve que hier, il y a eu un épisode un peu préoccupant du côté de la Bolivie, puisque l'hélicoptère d'Evo Morales a eu un accident, pas un accident, mais en tout cas, il a dû se poser un peu en catastrophe. Le ministre de l'Intérieur a appelé à dénoncer une tentative d'assassinat. Il y a eu, le week-end dernier, un certain nombre de figures de l'opposition qui ont appelé l'armée à rejoindre les manifestants. Je pense en particulier à Luis Fernando Camacho, qui était l'une des figures de l'opposition. Il a demandé justement à ce que l'armée les rejoigne. Est-ce qu'on sent quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui sur le soutien de l'armée envers Morales? Est-ce qu'il est total? Est-ce que ça pourrait bouger? Ou est-ce que pour l'instant on ne peut rien dire, Claude Le Guil?
Je ne suis pas spécialiste de l'armée, oui, pour pouvoir apporter une réponse claire là-dessus. C'est vrai que cette question de l'armée était déjà apparue quand Evo Morales était arrivé au pouvoir.
Comment elle était apparue?
Il y avait toujours eu cette crainte qu'en arrivant au pouvoir, sa victoire en décembre 2005 aux élections, sa prise du pouvoir en janvier 2006, avait généré énormément de contestations, déjà à peu près avec les mêmes acteurs.
Et donc on pensait que l'armée allait intervenir.
Il y avait toujours ce risque qui avait été brandi, que l'armée interviendrait pour soutenir notamment l'agro-industrie, donc des basses terres, et le soutien du comité de Santa Cruz, comité civique de Santa Cruz notamment. Donc c'est un petit peu la même menace qui est aujourd'hui brandie, sachant que dans la presse ce matin aussi des infos circulaient comme quoi Luis Fernando Camacho justement aurait promis aux policiers une retraite à 100% en cas de loyauté envers le peuple, parce qu'il se dit aujourd'hui représentant du peuple. Et Evo Morales aurait de son côté indiqué un bon de plusieurs milliers de bolivianos aux policiers aussi. Donc oui, voilà.
Oui, mais donc ça veut dire qu'on sent que c'est un enjeu là. On sent que c'est un enjeu. Et donc les uns et les autres jouent sur ce levier pour soit d'un côté se maintenir, soit de l'autre côté faire pousser à la réorganisation d'élections. Laetitia Perrier-Brulet, sur cette question de l'armée, du rôle qu'elle pourrait jouer, comment vous voyez les choses?
Oui, moi je suis comme Claude Le Guil, je vais un peu botter en touche sur l'armée parce que je connais pas bien la sociologie de l'armée. Mais ce que je sais, c'est que toute la politique d'Evo Morales depuis 2006 est une politique qui reprend un peu les paradigmes et les modèles forts de l'armée. C'est-à-dire tout ce que Evo Morales a promu en termes de développement, de renforcement du contrôle sur le territoire, de restauration de l'État national contre les gouvernances, les formes de gouvernance locale qui s'étaient développées dans la période néolibérale antérieure. Tout ce qu'il a promu en termes, par exemple, il a créé une agence pour le développement des macro-frontières, pour renforcer les frontières. Tout ça rentre bien dans l'ADN de l'armée et dans ce que l'armée croit être bon pour le territoire. Et donc, de ce point de vue-là, au moins du point de vue des affinités politiques, il est sûr que le programme d'Evo Morales n'a pas trahi ce que l'armée croit être bon pour le territoire, et bon pour la Bolivie, c'est-à-dire contrôler le territoire, renforcer l'État national, renforcer les structures nationales contre ces superintendances qui avaient été créées dans la période néolibérale. Et donc, de ce point de vue-là, et si Evo Morales aligne aussi quelques bolivianos sur la table, il n'y a pas tellement de raisons que l'armée le trahisse.
Ouais, bah c'est d'ailleurs, une information extrêmement importante, Laetitia Perrier-Brulé, que de nous dire que finalement, la politique d'Evo Morales va plutôt dans le sens d'un soutien de l'armée. C'est évidemment extrêmement éclairant. Comment on fait maintenant, Claude Le Guil, pour sortir de tout ça? L'opposition, maintenant, appelle à l'organisation de nouvelles élections. Évidemment, du côté d'Evo Morales, pour l'instant, c'est absolument exclu. Comment on sort de tout ça?
Bah, je pense que c'est un peu le talent des Boliviens de se mettre dans des situations extrêmement complexes. Je reviens toujours à cette période entre 2005 et 2009, avant que la nouvelle constitution de l'État soit approuvée par référendum. Donc il avait largement soutenu cette initiative. Et c'est le pays était déjà extrêmement fragmenté. On parlait déjà de l'intervention de l'armée, de risque de guerre civile, de conflits majeurs. Il y a eu effectivement des conflits majeurs, des tensions très très fortes. Mais au final, le pragmatisme bolivien avait fait que tout le monde avait réussi à négocier. Et aussi bien l'armée, comme le rappelait Laetitia Perrier-Brulé, que même l'agro-industrie s'était finalement retrouvée dans le discours d'Evo Morales, surtout plus que dans le discours, dans ses pratiques. Et au final, les choses étaient rentrées dans l'ordre. Là, j'ose espérer que certaines négociations vont être possibles. Il y a comme cette escalade dans le discours, l'appel à mobilisation des uns et des autres, des masses, du peuple pour la défense de la démocratie, qui est assez inquiétante. Il faut toujours faire attention en Bolivie, il y a beaucoup de discours, beaucoup de punchlines. Et souvent, voilà, il y a quand même un côté pragmatique. Je crois qu'il y a un analyste en Bolivie qui disait que, par exemple, par rapport au Venezuela, même si la société bolivienne est très politisée, elle n'est pas idéologisée, par exemple, comme d'autres pays, où la confrontation, du coup, idéologique est beaucoup plus forte et où elle peut arriver à plus de violence. En Bolivie, il y a quand même une capacité, malgré tout, malgré ce passé de coup d'État, ce passé militaire, comme le rappelait aussi Laetitia Perrier-Brulé, une capacité de négociation de dernière minute qui fait que le pays n'explose pas forcément toujours.
Laetitia Perrier-Brulé, vous êtes sur la même ligne, vous pensez qu'il y a une culture du dialogue en Bolivie qui va permettre de sortir de tout ça?
Bah oui, en tout cas, c'est vrai qu'en 2009, la constitution qui est sortie du chapeau en 2009, ça a été vraiment le résultat de très, 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 très de négociations très complexes qui ont permis de réintégrer les intérêts des uns et des autres, les intérêts des régions orientales, donc de ces régions qui représentent un peu l'agro-business, qui sont les régions de plaine orientale, qui sont assez riches autour de Santa Cruz, et les intérêts des indigènes qui voulaient voir leurs droits reconnaître. Et je peux citer un exemple qui est assez symptomatique, révélateur de cette capacité de négociation de la Bolivie autour de la question de l'autonomie, par exemple. Et ben l'autonomie, les indigènes voulaient une constitution qui reconnaisse leurs droits à l'autonomie territoriale, c'est-à-dire à se constituer un peu des entités administratives qui pourraient gérer de manière autonome. Les départements des Basses-Terres et entre autres le département de Santa Cruz revendiquaient aussi de l'autonomie, mais alors c'était une autonomie dans le cadre d'une espèce plutôt fédérale. Ils voulaient une espèce comme au Brésil, une sorte d'État qui rentrerait dans un État fédéral. Et finalement, on a réussi à créer une synthèse de ces deux projets autonomiques qui étaient tout à fait différents. Bon, alors c'est une synthèse qui tient pas trop, qui est assez finalement qui complique l'accès à l'autonomie des uns et des autres. Mais la Constitution de 2009, ça a été quand même une belle prouesse et une belle capacité de synthèse.
Donc on sait faire la synthèse, mais on y reviendra précisément pour regarder justement ce qui a changé avec cette Constitution de 2009. On va faire ce travail évidemment. Claude Le Guil, quand on regarde un tout petit peu les choses aujourd'hui, on a le sentiment, j'ai bien dit, qu'on a deux Bolivies qui se font face, celle de la ruralité, des périphéries, du monde amérindien, majoritairement favorable à Evo Morales, et celle, disons, des villes, des classes moyennes, supérieures, plutôt métisses et blanches, qui ne seraient pas forcément favorables à Evo Morales. Est-ce que cette division que je viens de présenter vous semble globalement correspondre à la réalité? Et jusqu'où précisément ces deux franges de la société bolivienne, si effectivement les choses se structurent ainsi, peuvent se poser? Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de fragmentation et vous avez ajouté derrière, vous avez évoqué vous-même, mentionné l'idée d'une possible guerre civile. Est-ce qu'il vous semble qu'on a là deux Bolivies qui pourraient rentrer en confrontation au point qu'il y ait ce genre d'événement en Bolivie? Sur la division d'abord que je proposais, est-ce qu'elle est correcte?
Oui, parce qu'effectivement, Evo Morales apparaît comme membre des cocaleros, donc des producteurs de coca. Il est plutôt issu de la branche paysanne. Et c'est par la branche paysanne qu'il a obtenu en premier lieu sa légitimité politique dans les années 90, puis dans les années 2000, jusqu'à la conquête du pouvoir donc en 2005. Mais cette conquête a été faite aussi grâce à l'appui des classes moyennes. Et c'est là qu'il y avait ce duo entre Evo Morales et Álvaro García Linera, qui est lui l'intellectuel blanc de La Paz.
Qui est son vice-président.
Donc cette alliance qu'on a pu dire du poncho et de la cravate, qui permettait de réunir les bases paysannes et les bases urbaines un peu plus intellectuelles, avait plutôt bien fonctionné. Effectivement, avec le temps, on se rend compte que les classes moyennes du Evo Morales ont rompu quand même avec le projet politique. Evo Morales s'appuie donc principalement sur le monde rural, à tel point que le jour de l'élection, quand son principal opposant, Carlos Mesa, annonçait qu'il irait au second tour, qu'il était qualifié pour le second tour, et donc, ce qui signifiait par le jeu d'alliance avec tous les opposants d'Evo Morales, il annonçait plus ou moins sa future victoire à l'élection présidentielle. Evo Morales a rappelé les minutes qui ont suivi que le décompte des votes n'était qu'à 83% et que grâce aux campagnes, il allait passer en tête et aller gagner dès le premier tour. Et effectivement, on a senti dans ce discours directement une sorte d'instrumentalisation des campagnes où j'ai senti dans ce discours d'Evo Morales qu'il mettait clairement les campagnes contre la ville dans ce discours, en prévoyant déjà que si la situation était compliquée, il pourrait s'appuyer sur les campagnes. Mais on voit bien, comme malgré tout, que les campagnes ne répondent plus autant à Evo Morales et que la Bolivie n'est plus aussi rurale qu'autrefois.
Laetitia Perrier-Brulé, c'est précisément là où je voulais en venir. Ce monde rural ne soutient plus autant Evo Morales que par le passé? C'est quelque chose que vous avez pu voir, vous, sur le terrain, Laetitia Perrier-Brulé?
Oui, alors, comme toujours en Bolivie, c'est compliqué.
C'est ça qui est bien, Laetitia Perrier-Brulé, c'est ça qui est intéressant.
Parce que ce monde rural, en fait, il est divisé. Alors moi, le monde rural, Claude Le Guil, il voit le monde rural bolivien depuis les Andes, hein, depuis les hauts plateaux. Et moi, j'ai toujours travaillé dans le monde rural bolivien, mais plutôt depuis les terres basses, les parties, le Norte et La Paz, entre autres, mais les parties amazoniennes, en fait, de la Bolivie. Et dans ce monde rural...
Ce sont deux mondes très différents.
Oui, parce que en fait les enjeux sont différents. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très différent. C'est différent parce que dans ce monde des terres basses, en fait, les indigènes, à partir des années 60-70, quand se sont mis en place des grands mouvements de colonisation agraire, hein, les indigènes locaux, ceux qui habitaient sur place dans des basses terres, se sont sentis envahis par les colonisateurs. Et qui étaient les colonisateurs, entre guillemets, parce qu'ils n'aiment pas employer ce terme à leur endroit, ces colonisateurs, c'était les paysans qui venaient justement des Andes, qui avaient des profils sociologiques tout à fait similaires à celui d'Evo Morales. Evo Morales est un paysan colonisateur, hein, puisqu'il est parti des Hautes-Terres, hein, et avec sa famille, il s'est installé dans le Chaparré, donc dans ces piémonts tropicaux, pour cultiver. Et donc, dans les Basses-Terres, on voit le monde rural divisé entre les populations indigènes autochtones qui se sont vues reconnaître des droits dans le cadre de territoires indigènes qu'on appelle les terres communautaires des origines, des territoires indigènes des origines, des Turcs maintenant. Et puis en face, c'est ces paysans colonisateurs qui ont obtenu des terres, mais dans un cadre légal un peu différent, qui est celui des communautés, donc des territoires moins grands, plutôt c'est des territoires qui regroupent entre 20 et 50 familles, et qui ont chaque famille a une cinquantaine d'hectares. Mmh. Et donc forcément, eh ben, dans ces basses terres, on voit bien jouer la fracture très forte du monde rural, parce que les indigènes qui se sont fait envahir, hein, d'une certaine façon, et entre guillemets, par ces paysans andins colonisateurs, ils se sont assez rapidement opposés à la politique d'Evo Morales qui leur était défavorable.
Oui, et d'ailleurs, ces divisions, on les voit même à l'intérieur du monde des cocaleros, les producteurs de coca. On pourrait penser qu'en tant qu'ancien producteur, eh bien, tous les cocaleros aujourd'hui sont des soutiens inconditionnels d'Evo Morales. C'est absolument pas le cas, et précisément, on le voit notamment dans ces divisions régionales. Parce que les producteurs des hautes terres en veulent aux producteurs des basses terres parce qu'ils considèrent qu'ils produisent trop, qu'ils cassent les prix, etc. Donc il y a ces divisions également au sein de ces producteurs de coca, qui sont pourtant les fers de lance de son élection dans les années 2000.
Oui, parce qu'en fait, il y a deux secteurs de production de la coca en Bolivie. Il y a le secteur traditionnel, historique, qui est le secteur des Yungas, donc dans les piémonts nord de la Bolivie. Et puis, il y a ça existe depuis que les Espagnols ont cherché une drogue pour faire marcher les indigènes. Et puis, il y a un secteur tout nouveau qui est le secteur du Chaparré, qui est plutôt au niveau de Cochabamba, donc plus au sud du pays. Et c'est ce secteur du Chaparré qui s'est vu reconnaître le droit, il y a, en 2017, de produire de la coca légale. Alors qu'avant, la coca légale ne pouvait être issue que des Yungas. Sous-entendu, la coca qui était produite dans le Chaparré, c'était de la coca illégale, de la coca interdite. Donc cette fracture, elle est liée aussi à ces deux zones de production qui s'enracinent dans deux histoires différentes. L'une, l'histoire de la colonisation agraire récente, qui est celle du Chaparré, et l'autre, l'histoire d'une mise en valeur très ancienne qui s'est mise en place au moment de la colonie espagnole.
Ceci dit, Claude Le Guil, ces divisions, ces rivalités paysannes entre les régions, elles existent depuis longtemps, depuis bien avant l'arrivée de Morales. Mais c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'Evo Morales aurait été en capacité de créer une forme d'unité de ce monde rural, de ce monde paysan. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi il a échoué?
Claude Le Guil. Je pense que c'est l'un des sujets majeurs pour comprendre un peu la crise actuelle du gouvernement Morales, c'est qu'il y a eu un pacte d'unité entre les organisations rurales dans les années 2000, avant l'élection d'Evo Morales, dans le période de contestation qui a complètement bouleversé la Bolivie entre 2000 et 2005. Et en fait, ces organisations rurales, elles représentent plusieurs types de paysans. Donc il y a l'organisation paysanne classique, il y a l'organisation indienne des Andes, il y a l'organisation indienne de l'Amazonie, il y a les colonisateurs dont parlait Laetitia Perret-Brûlé précédemment. Donc ces organisations, on se sont unies jusqu'à la constitution politique de l'État pour approuver cette constitution. Et une fois que ce passage a été réalisé, la constitution reconnaît l'État plurinational, donc reconnaît les droits des peuples autochtones, offre énormément de garanties sur le territoire. Chaque groupe est rentré dans une lutte très corporatiste. Et en fait, chaque groupe lutte pour amener ses dirigeants dans les ministères, avoir les lois les plus possibles en leur faveur. Et moi, j'ai travaillé justement sur ces conflits entre paysans et indiens dans les Andes, dans la région du Nord Potosi. Et c'est vrai qu'on voit que c'est une région extrêmement fragmentée. On passe d'une organisation à une autre, selon les enjeux du moment, les stratégies, selon les formations des principaux leaders. Et en fait, il y a aussi une multipositionnalité très très forte au sein des communautés. C'est qu'on n'est pas que uniquement membre d'une communauté, on est aussi membre d'une organisation paysanne ou indienne. On peut être membre d'une église évangéliste, et on voit que le courant évangéliste connaît une politisation nouvelle lors de cette élection d'octobre.
Et on peut aussi... C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le troisième candidat à l'élection a remporté 8% des voix, est un évangéliste. Donc c'est la première fois qu'il y avait un candidat évangéliste qui se présentait comme tel et qui a gagné, qui arrive en troisième position avec 8% des voix. Donc ce qui n'est pas anodin.
Ce qui siphonne les voix des indigènes, des Amérindiens évangéliques, parce qu'il y en a.
Effectivement, moi, quand les gens que je rencontrais au mois de novembre dans la communauté où j'étais retourné, où j'avais vécu pendant longtemps, quand je suis retourné à cette communauté-là, ils voulaient rompre avec Evo Morales. Mmh. C'est aussi l'une des différences que l'on voit, c'est qu'avant, Evo Morales était intouchable. Et les conflits locaux n'avait pas de répercussions sur le vote national. Tout le monde votait Evo Morales et après on réglait les comptes entre chacun au niveau local. Là, j'ai senti une instrumentalisation, ce qu'il fallait faire tomber Evo Morales pour faire tomber tout le système clientéliste qui est mis en place. Donc il y a une vraie bascule dans le jeu de relations de pouvoir entre les différents niveaux, depuis le national au monde local. Et ces populations-là, ce sont justement des populations qui se déclarent plus indiennes que les autres, mais qui sont en même temps évangélistes. C'est l'un des paradoxes boliviens, c'est qu'on passe, on multiplie les identités, ça semble complètement incohérent, mais pour eux, ça trouve une valeur. Et justement, ces gens-là, ils étaient prêts à voter les néolibéraux, mais ils étaient quand même un peu peur de voter néolibéral. Et quand ils ont vu ce vote évangéliste, je vois sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ils n'arrêtent pas de relayer pour ce candidat.
Même si ce n'est pas du tout une spécificité bolivienne, hein, l'identité est éminemment plurielle, bien sûr. Laetitia Perrier-Brulé, revenons un tout petit peu sur cette constitution de 2009, parce que c'est vrai que c'était l'une de ses grandes promesses de campagne, cette nouvelle constitution du côté de la Bolivie. On va essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière cette nouvelle loi fondamentale, mais peut-être en particulier sur l'élément que vous évoquiez tout à l'heure, Laetitia Perrier-Brulé, c'est-à-dire cette rivalité, cette forme de concurrence entre les indigènes des hautes terres et les indigènes des basses terres. Est-ce que, à l'intérieur de la Constitution, on établissait une forme de une différence, une distinction entre ces différents groupes, ou est-ce qu'il n'existait qu'un seul groupe d'indigènes, qu'une communauté indigène, Laetitia Perrier-Brulé, dans la nouvelle Constitution de 2009?
Alors, dans la Constitution de 2009, il y a plein de choses et des choses qui sont parfois contradictoires d'un article à l'autre à ce propos. La première chose, c'est que sur l'idée d'un seul groupe, effectivement, dans le cadre du Pacto Unidad, la constitution de 2009, qui a emporté portée par Evo Morales et par son groupe, arrive à imposer l'idée du triptyque, l'idée qu'il n'y a pas des indigènes, des paysans et des peuples originaires, mais que tout doit être fondu dans la même catégorie. Et donc, il est en permanence fait référence à cette catégorie indigène, paysan, originaire, comme s'il s'agissait d'une seule catégorie. Or, de fait, ce n'est pas une seule catégorie, parce que les gens qui se reconnaissent dans le groupe paysan se rattachent au syndicalisme paysan. Ils obtiennent des terres dans le cadre de communautés, avec ils obtiennent ces fameux lots de 50 hectares qui sont donnés à titre collectif, mais dans le cadre d'une communauté. Tandis que les indigènes, ils obtiennent des terres dans le cadre de ces grands territoires, qui sont beaucoup plus importants en termes de quantité de terres distribuées. Et donc, cette fiction, ce récit d'une catégorie mixte indigène-paysan-originaire, qui est portée dans la Constitution, qui est citée à plusieurs endroits de la Constitution, en fait, n'a pas trouvé de relais, n'a pas réussi à s'incarner véritablement dans la sociologie de la Bolivie rurale, parce qu'effectivement, les fractions sont réapparues très rapidement, parce que les intérêts sont forcément opposés, parce qu'on se base pour une ressource à l'arrivée, une ressource foncière qui met les différentes catégories en opposition.
Claude Le Guil, peut-être sur ce point, et puis pour comprendre aussi, parce qu'il n'y a pas seulement les questions foncières dans cette nouvelle constitution, qu'est-ce qu'elle a permis comme avancée, en particulier en termes de droits pour les indigènes?
Il y a une évolution dans la perception qu'ont les groupes indiens dans les Andes de la ressource. Il y a un sentiment de propriété qui s'est très développé au niveau des territoires, c'est-à-dire que c'est une expression qui est utilisée en permanence par les groupes indiens, c'est tierra et territorio, terre et territoire. Et c'est une référence qui vient de la constitution politique et qui parle d'un accès privilégié à certaines ressources sur les territoires indiens. Alors des fois c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas dans les représentations, ces groupes indiens se sentent totalement propriétaires de certaines ressources.
C'est très éloigné, pardon, de la conception de la cosmologie amérindienne qu'on a l'habitude d'entendre, avec l'idée d'une Pachamama et au fond nous ne serions comme que les locataires passagers d'un territoire qui nous appartient pas. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça quand même l'idée. On est très loin de tout ça.
Dans la partie andine, oui, effectivement, il y a tout ce discours sur la Pachamama, sur le Bibirbien, sur le cosmogonie Aymara, ou principalement Quechua. Le bien-vivre, qui ont été mobilisés comme un instrument de lutte contre le néolibéralisme. Mais en fait, quand on vit dans les communautés andines, on se rend bien compte que la situation est quand même distincte. Il y a des conflits permanents pour le contrôle des ressources, entre communautés, pour le contrôle des gisements. La thématique minière est un cas extrêmement révélateur de cette fragmentation des campagnes boliviennes. Mmh. Cela est valable pour la partie andine, la partie, je pense, des basses terres et de l'Amazonie, où a travaillé principalement Laetitia Paré-Brûlé. Est sans doute différente, mais en tout cas, il y a un véritable enjeu, c'est qu'il a créé aussi des nouvelles revendications et des nouvelles tensions dans les Andes. Je pense notamment sur la question de l'eau, où aujourd'hui, les communautés d'altitude ne laissent plus les paysans irrigants des vallées utiliser l'eau. J'ai pu assister dans les près de Cochabamba à les systèmes d'irrigation qui avaient été totalement détruits par les communautés d'altitude, qui disent maintenant l'eau est à nous, c'est notre ressource, et maintenant si vous voulez avoir accès, il va falloir renégocier l'accès, ce qui n'était pas le cas par le passé.
Alors il y a justement un moment de tension qui est extrêmement important dans l'histoire récente de la Bolivie pour comprendre peut-être cette forme de rupture entre ce qui était le socle traditionnel de Morales et cette figure évidemment amérindienne. C'est ce qu'on appelle l'affaire du type Nice, on est en octobre 2011, des Amérindiens protestent contre la construction d'une route qui doit couper leur territoire en deux. Ils marchent sur la Paz et ils refusent évidemment donc ce projet de route.
Si la route passe, ce sera une division. Nous, les peuples indigènes, nous ne sommes pas habitués à avoir tant de trafic. Il est donc possible que les indigènes disparaissent de cet endroit.
Je trouve que jusqu'à maintenant, le gouvernement a agi de façon méprisante. Il ignore la loi qu'il a lui-même rédigée avec tout le peuple indigène.
Voilà donc des témoignages recueillis à l'époque par l'AFP. On est en octobre 2011 et alors que les indigènes se rassemblent et marchent vers la Paz pour dénoncer ce projet, les autorités vont réprimer avec une grande violence le mouvement. Laetitia Perrier-Brûlé, c'est un événement qui est très important parce qu'il va produire une rupture très profonde entre la base indigéniste de Morales et Morales.
Oui, il y a une rupture au moment du type Nice. Et pour le coup, là aussi, dans les communautés, à partir de 2011, dans les communautés indigènes des basses terres d'Amazonie, on cite le type Nice, les gens parlent de la marche auquel ils ont participé. Et ça a été un moment de rupture parce que, d'abord parce que, effectivement, il y a eu cette violence policière à l'encontre des marcheurs indigènes qui remontaient pacifiquement à la Paz pour alerter sur cette question qui n'est pas seulement une question environnementale, qui était une question aussi pour protéger leur territoire. Mais ça a été une rupture parce que ça a révélé en fait que Evo Morales avait fait un choix entre ces deux pans du mouvement indigène, les indigènes des hautes terres colonisateurs dont il procède, lui en fait, il vient de là, de ce syndicalisme agricole, de ce syndicalisme cocaleros, et puis entre les indigènes des basses terres qui sont représentés par la CIDOB et qui défendent leur territoire, et depuis longtemps, depuis 1990, depuis la première marche pour la terre et la dignité, ils défendent leur territoire, et en 2011, on voit que Evo Morales a fait le choix, en fait, d'une certaine façon, des hautes terres, au moins des colonisateurs, contre les territoires indigènes.
Oui, parce que ce qu'on voit bien là aussi, et ça nous permet de bien comprendre combien en réalité il n'y a pas de communauté indigène au singulier, mais qu'elle est éminemment plurielle, c'est que dans cette affaire-là, il y avait des indigènes qui étaient extrêmement favorables à cette route, Claude Le Guil. Pourquoi est-ce que Evo Morales fait ce choix et fait ce choix de passer en force sur ce projet-là? Qu'est-ce que ça nous dit précisément de ses intentions en termes de développement économique, en termes de développementalisme, qui est effectivement la voie qu'il a choisie, ce qui va nous permettre progressivement de comprendre le projet politique, économique et social de Morales, Claude Le Guil?
Oui, c'est vrai que cette construction d'une route, elle associe un projet plus ample, le projet IRSA, donc de développement de l'Amérique latine, de la connexion des différents pays par la voie terrestre, des différents pays, un projet impulsé notamment par Lula, donc au Brésil. On est dans le contexte du virage à gauche de l'Amérique latine, avec des projets de réorganisation un peu de la région autour de l'activité économique. Et Evo Morales suit effectivement ce modèle. Et je pense que l'une des différences, je crois que Laetitia le disait très bien, c'est que dans les Andes, la construction d'une route est plutôt bien vue. Parce qu'effectivement, les communautés, les historiens l'ont très bien montré, il y a toujours une circulation très très forte. On parle de caravanes de lama qui circulent d'un lieu à l'autre. On exploite les territoires sur des très grandes étendues, on fait du troc. Et je pense que cette question-là de la route qui ne pose pas forcément de problème dans la partie andine, on pose beaucoup plus dans la partie amazonienne. Et je pense que Beaumont-Lès avait à la fois cette vision développementaliste qui a caractérisé son gouvernement depuis son arrivée, et en même temps peut-être cette certaine forme de racisme, qu'il a, pas du racisme, mais en tout cas de non-perception du monde indien dans les basses terres, qui est quand même différent du monde indien dans les hautes terres.
C'est un mot vraiment mal choisi, racisme, ou en fait c'est parce que quelque part il y a aussi un peu de ça?
Là, moi, j'habite beaucoup dans les hautes terres. Je sais, il faudrait demander peut-être à Laetitia si ce mot-là, il conviendrait. Je pense que j'ai beaucoup exagéré.
Laetitia Perrier-Brûlé,
Il y a eu des propos qui ont été tenus à l'encontre des indigènes qui habitaient le Tipnis, qui étaient des caricatures de leur mode de vie, qui étaient très violentes. Je ne sais pas si elles étaient racistes, mais elles étaient en tout cas extrêmement péjoratives. En particulier, par exemple, de Juan Ramón Quintana, qui est avec Alvaro Garza Linera, un des penseurs, le ministre de la présidence, et qui décrivait les Indiens du Tipnis en train de pêcher, et finalement qui les décrivait comme des sociétés très rustiques qui ne devaient pas empêcher la marche du progrès. Et ce qui est important, et du progrès entre guillemets, puisqu'il s'agit qui ne devait pas empêcher le développement de la Bolivie. Et ce qui est important à montrer, c'est que dans cette affaire du Tipnis, ce qu'on a vu, c'est que le gouvernement d'Evo Morales, en intégrant l'État, en fait, alors on a dit qu'il était devenu, il avait un projet révolutionnaire, et puis il est devenu réformiste en intégrant l'État, en se lovant dans les structures de l'État. Mais il a aussi intégré toutes les régimes de gouvernementalité qui étaient caractéristiques de l'État bolivien et qui l'ont précédé et qui peut-être lui succéderont. Et qu'est-ce qui fait que l'État bolivien qu'est-ce qui fonde la légitimité de l'État bolivien, bien avant Evo Morales, c'est sa capacité à assurer du développement par le contrôle des ressources et par le contrôle du territoire. Et ça, c'est vrai à toutes les périodes, et même dans les phases révolutionnaires. En 1952, au moment de la Révolution nationale, qu'est-ce que fait ce gouvernement de qui essaye de lancer une révolution nationale? Il lance une nouvelle réforme agraire avec redistribution des terres. Et à chaque fois qu'en 2006, c'est pareil, on fait une loi de reconduction de la réforme agraire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut penser une rupture, et ben finalement, à partir du moment où le gouvernement est dans l'État, il reprend les modèles structurants de l'État bolivien, qui est que sa légitimité, c'est de pouvoir contrôler le territoire et d'assurer le développement national en exploitant les ressources naturelles. Alors juste, je suis un peu longue, mais pourquoi c'est si important pour l'État bolivien de contrôler le territoire? Et ben parce qu'on est sur un territoire qui a perdu la moitié de sa superficie depuis l'indépendance de la Bolivie en 1825. Et ça, c'est un traumatisme national qui est très lourd, qui est d'ailleurs transmis aux enfants dans le cadre d'un catéchisme territorial. On dit à tous les enfants en Bolivie, la Bolivie devait être grande et elle est devenue petite parce qu'elle a perdu la moitié de son territoire depuis l'indépendance, parce que tous ses voisins ont pris des petits morceaux de la Bolivie. Et donc, ce qui légitime la fonction de l'État et ce qui le permet d'exister, c'est qu'il soit capable de contrôler son territoire et d'empêcher que ce territoire se défasse. Et quelle est la meilleure façon de contrôler les territoires? C'est de l'occuper, sous-entendu, de ne pas laisser des peuples indigènes d'Amazonie qui les exploitent de manière...
D'occuper normale. Et d'exploiter les ressources aussi, c'est aussi ça.
Et oui, et d'exploiter les ressources. Donc le développementisme et le contrôle sur les ressources et le contrôle sur le territoire fonctionnent ensemble, main dans la main, et sont un des ADN forts de l'État bolivien que Evo Morales a repris à son compte.
C'est intéressant ça, Claude Le Guil, parce que ça veut dire que le processus de changement qui est ce que Morales a mis en place en Bolivie, et qui est le titre d'ailleurs de votre livre, qui est une expression très chère à Morales, il n'est pas seulement question de développer le pays, il est aussi question d'avoir une véritable mainmise sur le territoire, ce qui n'a pas toujours été le cas. Essayez de nous aider à comprendre ce qu'est ce processus de changement en Bolivie. On comprend un peu l'intention, et il faudrait aussi peut-être comprendre les moyens, parce que quand il arrive au pouvoir, Morales a ce plan pour organiser ce changement, ce processus de changement. Et les choses doivent se faire véritablement en étapes, de façon diversifiée en fonction des différents secteurs. Essayez de nous faire comprendre un peu le détail de ce processus de changement. C'est quoi dans la tête d'Evo Morales, Claude Le Guil ?
Alors déjà, le processus de changement, il est très contradictoire entre différents objectifs. Il a cette étape plurinationale, donc de reconnaissance des peuples autochtones, leur autonomie, une certaine ethnicisation de l'État bolivien qui change de drapeau, enfin qui intègre le drapeau indien de la Huipala au drapeau bolivien national. Excusez-moi.
Je vous en prie. Je peux passer la parole un instant à Laetitia Perrier-Brûlé pour que vous puissiez vous remettre. Voilà, le temps que vous remettiez, Laetitia Perrier-Brûlé. Je vous en prie.
Oui, quelle était la question ?
Sur le processus du changement, on a compris un peu l'intention, à la fois évidemment l'ambition de développer le pays, mais aussi de prendre la main sur le territoire. Mais les choses étaient organisées de façon assez concrète. Il y avait des étapes. Comment on organisait les choses, Laetitia Perrier-Brûlé ? Je vais aller droit au but, Laetitia Perrier-Brûlé. Ce qu'on entend beaucoup du côté des théoriciens finalement du processus du changement, c'est l'idée que l'extractivisme qui a été mis en place par Evo Morales ne serait qu'une étape vers une situation où on penserait le développement de façon beaucoup plus durable et que d'une certaine manière, dans un premier temps, on développe le pays pour qu'il ait un minimum de richesse, un minimum de moyens, et puis ensuite on glissera tout doucement vers un peu plus de développement durable. C'est ça aussi le projet de Morales, Laetitia Perrier-Brûlé.
Oui, en tout cas, l'idée d'un processus révolutionnaire ou d'un processus de changement par étapes, ça c'est vraiment une idée très forte du gouvernement d'Evo Morales. C'est en fait une rhétorique ou un mode de pensée assez marxiste, hein, de dire que pour l'instant, il faut se développer, donc il faut rester dans le cadre de l'accumulation capitalistique, quitte à exploiter les ressources naturelles, et puis qu'à un moment, ça va ouvrir la voie glorieuse au post-capitalisme. Et ça, c'est la grande idée d'Alvaro García Linera, hein, qui vient du marxisme et qui dit...
qui est donc le vice-président et le penseur
de ce processus du changement. Il dit toujours le processus de changement, c'est deux étapes, mais la deuxième étape, celle du post-capitalisme, celle où on passe vraiment dans quelque chose de tout nouveau et que personne n'a réussi à faire, c'est-à-dire s'extraire du néolibéralisme, c'est pour plus tard, parce que pour le moment, on va faire de l'extractivisme. Et donc ça, c'est la première idée du processus de changement. Et la deuxième idée forte, c'est de justifier cet extractivisme qui vient complètement en contradiction avec toute la rhétorique sur le vivre bien, vivre en harmonie avec la Pachamama, de justifier cet extractivisme en disant que c'est un néo-extractivisme ou un extractivisme progressiste, parce que il est dirigé, il est contrôlé par l'État, hein, toujours l'idée que l'État va contrôler les ressources. Ce contrôle de l'extraction des ressources naturelles va permettre, en gros, en percevant des rentes, de redistribuer la richesse issue des ressources naturelles à une catégorie très large de population bolivienne. Ouais. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Et si on a dit à ça la croissance économique de la Bolivie, la pauvreté a régressé de manière phénoménale en Bolivie entre 2005 et aujourd'hui. Hein,
La pauvreté a été divisée par deux et le PIB a été multiplié par trois. Donc évidemment, d'un point de vue macroéconomique, le bilan est excellent. Claude Le Guil est encore pas très bien niveau de la gorge. Alors je poursuis avec vous, Laetitia Perrier-Brûlé. Toute la question est de savoir si on peut précisément opérer ce glissement vers le post-capitalisme, vers ce développement durable. Parce que à la faveur évidemment de ce développement, il y a un certain nombre de personnes qui se sont enrichies grâce à cette politique extractiviste et qui donc entendent bien continuer à s'enrichir. Si Morales décide d'appliquer effectivement son programme et de revenir vers une politique plus durable, ces gens-là ne vont pas le soutenir, vont arrêter de le soutenir. Et peut-être d'ailleurs que la crise qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est le glissement avec des classes moyennes et supérieures qui maintenant veulent continuer à s'enrichir.
Exactement. Je pense que personne ne veut, en tout cas en Bolivie, personne ne veut du post-capitalisme. Et si on regarde les différentes fractions en présence, on peut le comprendre. Il y a d'une part, on parle beaucoup des classes moyennes, urbaines, sous-entendu un peu métissées, hein, mais il y a aussi toutes ces classes moyennes, ou d'ailleurs classes assez riches, qui sont, elles, très indigènes, très aymara, qui vivent en ville et qui se sont énormément enrichies. Et tous ces gens qui, du coup, à partir du moment où la classe moyenne a grandi en Bolivie, et que cette classe moyenne se définit par la possession d'un petit patrimoine, elle n'a pas envie d'un projet qui rompt avec le capitalisme et qui rompt avec la propriété privée, puisqu'il y a eu un processus d'enrichissement. Vous savez, en Bolivie, il y a 67% des gens qui se déclarent membres, c'est autodéclaratif, c'est une enquête de 2017, qui se déclarent membres de la classe moyenne. C'est plus qu'en Argentine ou au Mexique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent appartenir à la classe moyenne, au sens où ils ne se sentent pas dans la très grande pauvreté, ils ont l'impression d'avoir un patrimoine ou un petit capital à défendre. Et dans ces cas-là, le projet post-capitaliste ne les intéresse pas. Mmh. Et si on regarde dans les campagnes maintenant, parce qu'on peut dire ça c'est en ville, mais dans les campagnes c'est pareil. À partir du moment où vous avez donné des territoires, des terres par exemple aux paysans, même si c'est dans le cadre de propriété collective, mais bon, ils savent chacun quel lopin leur appartient et puis ils sont capables de le revendre sous couvert des papiers officiels, mais ils le revendent quand même. Mais à partir du moment où les paysans ont été dotés de terres et qui sont rentrés du coup dans ce que j'appelle un peu la néolibéralisation de la nature, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport à la nature, au foncier et puis à la production qui est un rapport médié par la médiation marchande, et ben ils n'ont pas non plus envie de repartir en arrière sur des projets totalement nouveaux, mais qui seraient peut-être inquiétants et qui sont hors du système capitaliste.
Ouais. Alors je vais faire réagir Claude Le Guil qui normalement a priori a retrouvé enfin sa voix avant de passer à l'Équateur avec une nouvelle invitée. Sur cette difficulté, Claude Le Guil à passer dans ce régime post-capitaliste, si on peut dire, qu'était le programme, en tout cas théorique, d'Evo Morales.
Oui, effectivement. Je pense que.
Et est-ce que finalement la crise politique actuelle, elle n'est pas le symptôme de l'impossibilité à passer dans cette étape-là ?
Il y a différents facteurs qui rentrent en jeu. Il y a déjà la difficulté pour un pays comme la Bolivie qui est historiquement exclu, exclusivement et historiquement simple producteur de matières premières, et qui veut franchir ce cap par l'industrialisation, le lithium, le gaz, et mettre en place toute cette industrialisation qui devra permettre de sortir de la simple extraction des ressources naturelles, comme l'expliquait Laetitia. Mais il y a aussi, à mon avis, cette dynamique au niveau local, dans les communautés. C'est-à-dire, moi, je travaillais dans une région très minière, où tout le monde dans la communauté, tout le monde va travailler dans la mine, tout le monde veut extraire la mine, et les questions environnementales sont complètement absentes, ou en tout cas, il y a une cohabitation de l'activité agricole, de l'activité minière, qui fait que il y a des conflits de souveraineté qui se mettent en place. C'est-à-dire que la mine nous appartient à nous, de la communauté. L'État n'a pas à intervenir. Il n'y a pas de régulations qui sont vraiment réalisées sur les questions environnementales ou même le droit du travail. On retrouve dans certaines mines des formes d'exploitation très, très violentes entre mineurs eux-mêmes. Et du coup, c'est vrai que c'est cet imaginaire qu'on a de la Pachamama, de l'Indien proche de la nature et qui protège ses ressources, qu'on se penche sur l'activité minière dans la partie andine, on voit bien que cela est assez loin des pratiques concrètes que l'on peut observer.
Oui, donc finalement, on n'est pas finalement très enclin à opérer cette dernière étape du processus du changement d'Evo Morales. Peut-être même Evo Morales lui-même n'est pas convaincu qu'il faut enclencher la dernière étape.
Juste une anecdote, quand je suis retourné dans la communauté, enfin dans cette région-là, en mois de novembre, que ce soit aussi bien les coopérativistes, donc ce soit les petits producteurs de mines artisanales, qui travaillent dans les mines artisanales, ou des travailleurs des mines publiques, des quelques mines publiques qui existent encore au niveau de l'activité minière, tous me disaient que le gouvernement n'avait pas assez investi et était prêt ils espéraient l'arrivée d'une entreprise privée. C'est un discours quand même qui m'avait extrêmement surpris. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années et que l'on retrouve actuellement.
On est avec vous Claude Le Guil et vous Laetitia Perrier-Brulé en duplex de Nancy autour de cette série consacrée à l'Amérique du Sud. On va prendre la direction de l'Équateur.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous voulons que ces mesures soient annulées. Elles sont contre le peuple, contre les gens ordinaires, contre les ouvriers. Nous sommes le peuple et le peuple doit défendre le peuple.
Ils nous volent, nous les pauvres. Ils nous vident les poches et augmentent les prix du gaz et du diesel. Vous savez, nous sommes pauvres. Nous sommes ceux qui travaillent tous les jours et qui cultivent. Nous n'avons pas le choix.
Voilà, une manifestation du côté de l'Équateur. Finalement, le 14 octobre dernier, le gouvernement de Lénine Moreno trouvait un accord pour sortir de cette crise politique qui a fait quand même une dizaine de morts en une quinzaine de jours. À l'origine du conflit, on entendait la suppression des subventions sur les carburants dans le cadre d'un plan d'austérité déclenché pour obtenir un prêt du FMI. Parmi les contestataires, nombre d'indigènes et d'institutions qui les représentent, se joignant effectivement aux transporteurs, la CONAI, la Confédération des Nationalités Indigènes de l'Équateur, avait décrété l'état d'urgence plurinational avec ce blocus, un grand rassemblement indigène à Quito. On va essayer de comprendre cette mobilisation des Amérindiens en Équateur. Bonjour, Suniva Labarthe.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, doctorante au Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron de l'École des hautes études en sciences sociales. Dans un premier temps, c'est les transporteurs qui se sont mobilisés contre la suppression des subventions sur les carburants. Et on comprend assez logiquement, assez naturellement. Et puis très rapidement, les Amérindiens les ont suivis. Comment comprendre leur mobilisation? En quoi les Amérindiens étaient-ils spécifiquement concernés par cette suppression des subventions?
Alors, cette suppression des subventions, disons qu'elle a un peu touché tout le monde de manière très pas brute. C'était autour de 123% d'augmentation du prix de l'essence. Donc, ça touche relativement tout le monde. Il y avait une compensation qui était apportée seulement pour les plus pauvres qui touchent une aide sociale par ailleurs. Mais globalement, les classes populaires ont été très affectées. Or, bien sûr, la population indigène, beaucoup moins nombreuse qu'en Bolivie, en Équateur, mais tout de même importante, et fait partie des catégories sociales les plus vulnérables, donc forcément les plus affectées par cette réforme décidée de manière très abrupte, sans compensation.
Oui, donc il était logique finalement qu'elle se mobilise aussi, Suniva Labarthe. Il n'empêche que cette CONAI, Suniva Labarthe, elle a l'air vraiment d'être un acteur politique très important. Elle est en capacité de bloquer le pays, elle est en capacité de faire tomber des présidents, c'est déjà arrivé trois fois ces deux dernières décennies. Comment comprendre ce poids politique absolument colossal de cette institution et plus globalement des indigènes d'Équateur?
Alors, c'est certain que la CONAI et le mouvement indigène s'inscrivent, les événements récents s'inscrivent dans une longue tradition historique des luttes sociales du mouvement indigène depuis les années 90. Ce système de bloquer les routes puis ensuite monter à la capitale et éventuellement changer le gouvernement en place face à des mesures circonscrites précises, et ça s'est déjà vu plusieurs fois. Donc il y avait une sorte de répétition comme ça, mais il y avait surtout une réaffirmation de ces capacités de mobilisation historique sur lesquelles, en fait, d'autres secteurs qui étaient extrêmement mécontents aussi se sont repliés en quelque sorte peu délégués leur... Oui.
Mais je vous repose la question, Suniva Labarthe. Comment se fait-il qu'elles aient un tel poids politique? Quand on regarde la démographie, je m'en réfère au recensement de 2010. La population indigène, c'est 7% de la population. J'ai bien dit que je me référais aux chiffres du recensement de 2010. 7% de la population. Comment se fait-il qu'on soit en capacité comme ça de bloquer le pays et de faire tomber des présidents?
C'est pour ça que je vous explique que oui, alors le mouvement indigène s'est rebellé, il a une force, il a gagné là une victoire symbolique très importante. Mais il faut peut-être pas non plus surestimer le mouvement indigène. Ce ne sont pas que des indigènes qui étaient dans la rue, il y avait vraiment d'autres composantes sociales. Ça s'est passé dans la cordillère principale et dans à la capitale Quito, mais ça s'est pas explosé effectivement au reste du pays un peu moins indigène. C'est effectivement la cordillère centrale indigène qui a le gros du mouvement, mais il y a eu énormément d'autres composantes urbaines, et particulièrement des groupes étudiants, les travailleurs, la centrale des travailleurs en Équateur aussi. Donc il faudrait peut-être pas tout mettre sur les épaules du mouvement indigène.
Je mets rien sur les épaules du mouvement indigène, Suniva Labarthe. C'est juste qu'effectivement, force est de constater qu'ils étaient très présents dans cette contestation sociale. On essaye de comprendre pourquoi et comment cette confédération est devenue comme ça la pierre angulaire des contestations depuis 10-20 ans.
C'est toujours comme ça que ça se passe en Équateur depuis... Ouais. depuis 20 ans. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un gros soulèvement, le rôle du mouvement indigène est très important dans la mobilisation. Ensuite, est-ce qu'il va déboucher sur un projet politique réel? Est-ce qu'il y a des débouchés institutionnels à ça? C'est pas évident.
Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Parce que
il y a un gros débat. Il y a un débat sur la sortie de crise. D'un côté, négocier entre guillemets avec le gouvernement au niveau des violences qui ont été subies, mais aussi au niveau des accusations qui pèsent contre certains leaders indigènes qui se sont particulièrement exposés pendant les mouvements. Et ça, on verra bien sur quoi ça débouchera. Mais c'est pas une force politique nationale qui laisserait supposer que là il y ait une émergence du mouvement indigène autour des événements susceptibles de représenter une alternative politique nationale dans les années à venir.
Donc vous voulez dire qu'il n'y aura pas d'indigènes au pouvoir, aux manettes de l'Équateur dans les prochaines années? Il n'y aura pas un Evo Morales en Équateur?
Non, ça paraît peu probable. Il y a toujours une possibilité d'un outsider ou tout ça, mais là, c'est vrai qu'il y a une affirmation qui est d'autant plus impressionnante parce qu'on avait un peu sous-estimé justement la grande erreur de Moreno, comme un peu Piñera, c'est la sous-estimation des forces sociales en présence. Et vis-à-vis du mouvement indigène, il y avait l'idée que le mouvement indigène était sorti en fait très affaibli depuis le gouvernement Gutiérrez par le gouvernement Correa, et que donc ces réformes passeraient normalement.
Correa étant l'ancien président qui a été en place de 2007 à 2017, je précise pour les auditeurs qui ne sont pas forcément parfaitement au courant de la politique équatorienne. On parle de la communauté indigène, mais est-ce qu'elle est aussi unie que ça? Est-ce qu'on a vraiment un front avec une vision commune, ou est-ce que derrière les apparences, un petit peu comme on l'évoquait tout à l'heure avec Laetitia Perrier-Brulé et Claude Le Guil, on a des forces divergentes à l'intérieur de ce front indigène?
Alors, des forces divergentes, bien sûr, parce que c'est un mouvement populaire, assez haut en couleur, on va dire, selon les régions, il y a des particularités et tout ça. Mais globalement, c'est un trou de...
Vous avez globalement, c'est plutôt un front uni, c'est ça que vous voulez dire?
Ah non, c'est pas tant que c'est... Alors, il y a des divergences qui sont importantes, mais il n'y a pas vraiment une cohésion, surtout vers un nouveau projet politique. On a vu en fait que les représentants de la CONA et les représentants du mouvement indigène qui sont entrés en dialogue avec Moreno le 13 octobre, il y avait donc le représentant de la CONA, la principale organisation indigène du pays, mais il y avait aussi la FEIN, l'organisation des indigènes évangélistes, et ensuite une représentante d'une communauté de Sarayaku. On n'était pas dans une structure avec un projet politique organisé qui aurait vocation à sortir de ça avec un projet pour l'ensemble de la nation. Là, aujourd'hui, ça génère deux types de débats dans la société équatorienne. D'un côté, son rapport dans les événements avec la potentielle infiltration de Rafael Correa, d'un complot maoriste au niveau du continent qui est complètement... exacerbé par le président actuel. Et de l'autre côté, il y a aussi une autre exacerbation, alors là, qui est celle de la droite, qui est celle de la réaction raciste avec la peur de la déferlante indigène. Ils sont aujourd'hui en train de demander des comptes aux responsables indigènes du mouvement sur la prise de l'Assemblée nationale, par exemple, et sur la potentialité de la création d'une armée indigène, ce qui est complètement de l'ordre de l'hallucination dans le contexte équatorien.
Toute dernière question, est-ce que Rafael Correa, précisément l'ancien président, pourrait profiter de la situation, profiter de la crise et revenir?
On n'arrive pas à comprendre bien comment, de quelle manière, parce que il a effectivement sauté sur l'occasion dès le début du mouvement. Il a soutenu le mouvement en appelant à la destitution de Moreno par l'Assemblée nationale, et il s'est tout de suite présenté comme potentiel candidat à la reprise du pouvoir, mais là il a expliqué que comme il est en Belgique actuellement, parce qu'il est sur le coup, sous le coup de 26 procédures judiciaires différentes en Équateur pour corruption, mais pas seulement, il écrit qu'il ne pourrait pas se présenter directement à la présidence, mais que donc il envisageait une formule comme en Argentine, Fernandez, pour pouvoir revenir en Équateur en tant que vice-président. Mais
vous faites référence au ticket qui a été fait par Alberto Fernandez et Cristina Kirchner du côté de l'Argentine et qui a été un ticket gagnant puisque précisément ils y ont gagné tous les deux. Voilà, c'est avec ce titre Rikshari, Despierta du collectif de rappeurs Quecha Minga Artistica qu'on se quitte. Et j'indique que c'est vous, hein, Sunny Valabart, qui nous avez soufflé ce titre qui est un rappeur, un groupe de rap équatorien qu'on connaissait pas. Donc c'est pareil, on va le mettre également sur la playlist de Culture Monde qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Un grand merci à vous, Sunny Valabart. Un grand merci à vous, Claude Le Guil, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur ces sujets. Je remercie également Laetitia Perrier-Brulet qui était avec nous en duplex de Nancy. Je remercie également le technicien qui était avec elle pour permettre cette liaison.